BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Nogues.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Un nouveau numéro consacré cette semaine à l'influence de la France à Bruxelles et dans l'Union Européenne. A priori, la France est quand même un pays fondateur de l'Union Européenne. C'est la seconde économie de la zone euro. Donc la France devrait peser. Bonjour Sylvie Goulard.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée MoDem, membre de la famille politique ADLE, l'Alliance des démocrates et libéraux européens. Vous êtes une spécialiste de la question de l'influence de la France en Europe. Que pèse-t-elle, la France, en Europe ?
La France ne pèse pas le poids qu'elle pourrait peser, et c'est dommage, parce que je pense qu'elle manque. Cela dit, il y a une question très importante, c'est savoir l'influence pourquoi ? Est-ce que c'est pour défendre uniquement la France en Europe, ou est-ce que c'est la France aussi dans un mouvement européen pour consolider l'Europe ? Et c'est des stratégies d'influence assez différentes, selon qu'on se positionne contre les autres ou pour faire quelque chose. Par le passé, la France a souvent été une force d'influence positive pour l'Europe.
Et aujourd'hui ?
Je crois qu'elle ne sait pas très bien où elle est, objectivement.
Bon, voilà. Bonjour Pierre Sellal. Devrais-je dire, monsieur l'ambassadeur, vous êtes courageux parce que vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes le représentant permanent de la France ici à Bruxelles, vous supervisez un petit peu tous les dossiers que traite la France, notamment au Conseil, et quand on s'apprête à faire une émission sur l'influence de la France, on ne va pas forcément dire que des bonnes choses. Malgré tout, vous avez accepté notre invitation, je vous en remercie. Est-ce que la France a une réelle stratégie d'influence aujourd'hui à Bruxelles ?
C'est quoi l'influence dans les travaux européens ? D'abord, comme l'a rappelé Sylvie Goulard, nous avons accepté que l'Europe exerce des compétences, exerce des fonctions qui correspondent à nos intérêts et à ce qui étaient traditionnellement les attributs de l'État. Notre premier objectif, c'est de faire en sorte que l'Europe les exerce et que les décisions soient prises. C'est notre premier intérêt. Ensuite, lorsqu'on est représentant permanent de la France, on a pour objectif de faire en sorte que la France inspire le plus grand nombre possible de décisions, qu'elle inspire les politiques et qu'elle subisse le moins possible. Eh bien, tous les observateurs, Jean Quatremer qui en est particulièrement attentif, le confirmera sans doute, il est très rare que la France soit minorisée à Bruxelles.
Eh bien, c'est déjà une bonne nouvelle pour l'introduction de cette émission. Bonjour Charles de Marcy.
Bonjour Yann Tony.
Directeur de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles. Vous êtes venu les bras chargés avec ce bel ouvrage remarquable, le rapport Schuman sur l'Europe 2016, avec des textes de Wolfgang Schäuble, Jean-Pierre Raffarin, Philippe Mechtat, etc. Vous êtes chez nous aujourd'hui parce que la Fondation Schuman a aussi réalisé une étude chiffrée sur l'influence de la France au Parlement, au Conseil, à la Commission.
Une série d'études, oui, on en fait déjà plusieurs depuis une dizaine d'années et on montre justement qu'en fait il y a un certain paradoxe puisque comme les politiques, notamment françaises et en France, les partis politiques se désengagent un peu d'une vision européenne, vous l'avez déjà un peu cité, bah, finalement on transfère cette influence plutôt aux techniciens, aux diplomates et donc on est un peu faible sur la première partie mais plutôt fort sur la seconde.
Souvent, dans les matchs de football, les commentateurs s'appuient sur un expert qui a une palette avec tout un ensemble de statistiques. Vous allez être notre statisticien dans cette émission. Bonjour, Paul Gégère. Alors, vous êtes le fondateur du groupe des Belles Feuilles. Ça faisait longtemps qu'on souhaitait vous avoir autour de cette table. Déjà, en quoi consiste ce groupe des Belles Feuilles ?
C'est un groupe d'études des questions européennes qui a pour vocation à permettre à des personnes qui sont dans la vie professionnelle, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, de travailler sur des projets européens pour mieux comprendre les enjeux européens et pour tisser entre eux des liens qui leur permettront de contribuer à des projets européens.
Et pourquoi ce besoin de créer ce groupe ? Parce que vous étiez parti d'un constat ?
Je pense que le projet européen ne doit pas être uniquement, on ne doit pas entièrement se reposer sur les engagements des leaders politiques ou des hauts fonctionnaires ou des médias ou des représentants des think tanks. Il faut que la société civile concrètement s'engage dans un travail de fond sur les questions européennes.
Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
Donc, comme le disait Pierre Sellal, le représentant permanent de la France ici à Bruxelles, vous êtes un grand observateur des questions européennes, vous êtes le grand spécialiste, je ne sais pas s'il a dit ça d'ailleurs, mais vous êtes le grand spécialiste de la question. Et en tant que grand spécialiste, j'ai cette question pour vous. Quels sont les projets de François Hollande pour l'Europe ? Vous devez le savoir, vous.
Non, mais ça fait 4 ans que j'enquête, je dois dire. J'ai creusé extrêmement profond, je ne suis pas loin du noyau de la Terre. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé.
D'accord.
Pour être influent, il faut avoir une vision, il faut avoir un but politique. Moi, personnellement, le but politique de François Hollande, je le cherche encore. Moi, je ne sais pas ce qu'il est. Alors, il est européen, effectivement, il est européen, comme moi, je suis pour qu'il en été, il y ait du soleil, qu'il pleuve sur les récoltes, etc. Tout le monde, on pense tous la même chose. Mais quel est le but qu'il poursuit? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut une Europe des États-nations qui collaborent entre eux? Est-ce qu'il veut une Europe fédérale? Est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire? On ne sait pas.
On ne sait pas. Voilà, quelle est l'influence de la France à Bruxelles et en Europe? Voilà le programme de 500 millions d'Européens aujourd'hui pour réagir. Hashtag 500ME. Alors d'abord, partons sur la définition. Sylvie Goulard, à quoi mesure-t-on finalement l'influence d'un pays à Bruxelles?
Je crois que c'est relativement impossible à mesurer si on cherche une mesure scientifique. Il n'y a pas un thermomètre de l'influence. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut aller regarder en dehors de Bruxelles. C'est-à-dire, si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Chine, à qui on associe en ce moment l'influence en Europe? Il n'y a qu'une réponse, c'est l'Allemagne. C'est très dramatique parce que d'abord, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne, c'est encore moins dans l'intérêt de la France et d'autres pays. Et je pense que ça déséquilibre l'Union. Mais si on prend un peu de recul, on l'a vu avec Barack Obama, il est quand même venu cette semaine faire un voyage en Europe très intéressant, dans lequel en gros il a dit aux Anglais « vous aurez de l'influence si vous restez dans l'Union ». Et ensuite il est allé à Hanovre pour conforter le pouvoir de la chancelière. Donc ça, c'est une des choses qu'on n'entend pas assez dans le débat français. Je crois qu'il ne faut pas se lamenter. Comme l'a dit Jean Quatremer, il faut reconstruire une vision et à partir d'une vision solide, la France pourra retrouver de l'influence. Il y a aussi un autre élément qui lui peut se mesurer très clairement, je parle sous votre contrôle et tous les gens de la société, c'est le poids économique. L'une des choses qui est fascinante, moi je suis en commission économique et monétaire, c'est le décrochage qui est intervenu il y a quelques années entre la France et l'Allemagne notamment, mais aussi quand vous dites la France deuxième puissance, en matière industrielle les Italiens sont devant nous, dans les classements du FMI, le Royaume-Uni est devant la France, donc je crois qu'encore une fois il faut cesser, comme on le fait trop en France, d'avoir une vision de volontarisme politique qui n'est pas adossée à des performances réelles, quantifiables.
Bon, Pierre Sellal, en posant cette question tout à l'heure à Sylvie Goulard, j'espérais qu'elle allait me dire, alors les critères pour mesurer l'influence de la France à Bruxelles, c'est de regarder notre poids au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, quand on regarde au niveau des postes. Alors peut-être que c'est juste la face émergée de l'iceberg, hein, mais le chef de cabinet du président de la Commission européenne, c'est un Allemand, parce que Sylvie Goulard parlait de l'Allemagne. Président du Parlement européen, donc c'est Martin Selmayr. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, c'est un Allemand également. Le secrétaire général du Conseil, où sont les Français?
Oui, c'est une conception un peu réductrice de l'influence. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que nous devons viser, c'est que tous ceux qui sont en situation de responsabilité, qui participent à la décision, soit inspiré, influencé par des objectifs, des idées françaises et est à cœur d'avoir en charge une part des intérêts français. Donc ne considérez pas que l'appréciation de l'influence française se limite à la présence des...
Et là, on
Français.
A des pays amis dans oui. ce cadre-là. Oui, mais, parce qu'on dit souvent que les élargissements successifs de ces dernières années ont un petit peu changé le centre, qu'il soit géographique ou même idéologique, oui. de l'Union européenne. Et il est plus à Paris maintenant. Donc est-ce que l'arrivée de tous ces pays de l'Est, ça ne favorise pas plutôt l'Allemagne?
Non, mais ce que votre question a d'intéressant, c'est qu'elle nous rappelle qu'à intervalles périodiques, depuis 40 ans ou depuis même 50 ans, nous considérons que l'influence de la France est en déclin. Je pense que nos prédécesseurs, en 61, avaient dû considérer l'échec du plan Fouché comme la manifestation la plus éclatante du déclin de l'influence française.
Et la CED, en
c'était le général de Gaulle.
C'est une bonne chose, c'est on peut plus réjouir.
C'est ce qu'on a dit dans les années 90, effectivement, vous le rappelez, avec la réunification allemande, avec l'élargissement à l'Est. C'était inéluctablement un déclin de l'influence de la France. Non, je crois que la clé de l'influence... c'est d'abord de vouloir avoir de l'influence. Et tous les pays, aujourd'hui, n'ambitionnent pas d'avoir de l'influence.
Est-ce que la France, aujourd'hui, ambitionne d'avoir de l'influence?
Incontestablement. Et je citerai simplement...
J'ai l'impression que c'est contestable autour de la table. Hein.
Alors, pour éviter la généralité de l'abstraction, quelle a été l'affaire multilatérale mondiale majeure de l'année écoulée? C'est la COP21. Quel est l'enjeu stratégique, géostratégique majeur pour l'Europe? C'est ce qui se passe à sa frontière orientale avec l'Ukraine et avec la politique russe. Qu'est-ce qui est présent sur ces deux dossiers, la COP21 ou la tentative de trouver un règlement politique à l'affaire ukrainienne? C'est la France à la COP21, la France avec l'Allemagne pour l'Ukraine.
Jean Quatremer,
ce sont des exemples simplement.
Vous partagez ce constat?
Oui, ce qui est intéressant dans les propos de Pierre Sellal, c'est le fait que l'influence, ça se mesure pas uniquement, effectivement, à la présence de fonctionnaires français. D'autant moins que quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que nombre de fonctionnaires français deviennent anti-français. Ça, c'est quelque chose qui me fascine complètement. Alors, quand on dénonce la haine de soi,
voire de journalistes français,
c'est exagéré.
Non, je crois que le sujet se joue à Paris. La vision européenne de la France, elle doit s'élaborer à Paris, elle doit se construire sur une vision de l'union des Européens. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Sylvie tout à l'heure en disant qu'on a un choix, en disant est-ce qu'on est là juste pour défendre les intérêts de la France ou on est là pour construire quelque chose en commun. C'est ça la question essentielle. Et forcément, ça passe par une compréhension des enjeux européens globaux et une alliance avec les Allemands sur les sujets essentiels et travailler sur la convergence.
Charles de Marcy.
Historiquement, la France a une vocation d'influence mondiale et les exemples que vous avez cités, vous avez commencé par l'aspect mondial et après européen, et je trouve que c'est assez significatif, alors qu'ici l'influence est politique et technocratique. Sur le levier technocratique, on est assez fort, on est puissant, vous l'avez cité en introduction, il n'y a pas de décisions majeures qui sont prises sans la France. Au niveau politique, c'est plus discutable, que ce soit ici, au niveau du Parlement européen ou même à l'échelle supérieure au niveau des chefs d'État et de gouvernement, on a parfois l'impression que la France est un peu en retrait. Elle est là parce qu'elle doit être là, c'est un acteur majeur, mais elle n'est pas forcément source d'initiative.
On l'a vu sur deux sujets majeurs ces dernières années, qui a été quand même la crise de la zone euro, notamment au moment où Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir et François Hollande est arrivé. Et là, c'est vrai qu'on se demande quelle est l'influence de François Hollande dans le débat sur la zone euro et les réfugiés. Ou sur les réfugiés, on a laissé les Allemands tout seuls.
On les critique même.
Juste après un court message publicitaire, nous allons passer en revue l'influence française au sein des différentes institutions européennes. On va notamment se poser cette question. Que s'est-il passé au Parlement européen avec un tiers d'élus Front National? À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Oui, depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous allons sonder l'influence de la France à Bruxelles avec Sylvie Goulard, eurodéputée libérale-démocrate européenne, Pierre Sellal, représentant permanent de la France dans la capitale européenne, Charles de Marcy, directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman à Bruxelles, Paul Gégère du groupe des Bellefeuilles et Jean Quatremer, toujours chaque semaine. Charles de Marcy, avec votre rapport, donc ça c'est le rapport Schuman sur l'Europe que vous venez d'éditer et qui vient de paraître, 10e édition, bravo, je vous félicite. Je l'ai feuilleté, il n'y a quand même pas beaucoup d'images, ce serait bien pour la 11e
édition. Il a du mal à lire sans images.
J'ai du mal à comprendre. Non, sincèrement, vous avez fait, vous mesurez l'influence de la France. Alors, Jean Quatremer me demande le rapport Schuman. Vous mesurez l'influence de la France chaque année, vous faites une analyse. Au Parlement européen, que s'est-il passé avec l'arrivée de ce bataillon de 24 élus Front National?
Mécaniquement, ce sont des élus qui ne sont pas dans les autres partis politiques et donc le poids de chaque parti dans les groupes politiques européens a diminué. Donc on le voit avec certaines délégations, chez les Verts c'était assez manifeste, au sein de la droite c'était aussi significatif, sans compter les socialistes français qui sont la 6e délégation des socialistes et démocrates européens. Donc on perd en fait cette capacité à pouvoir peser au sein de chaque groupe et donc il faut essayer de réunir un peu ses forces. Donc en pratique, avec 74 eurodéputés, on se retrouve à avoir des acteurs qui peuvent peser de la même délégation que les Espagnols ou les Polonais qui ont un tiers d'eurodéputés.
Donc la France en a 74, l'Allemagne en a 96. Si on se compare avec les Allemands, eux ils ont la présidence du Parlement européen, ils ont des présidences de groupes politiques, ils ont de nombreuses présidences de commissions parlementaires.
Enfin, commission parlementaire, deux pour les Français, on en avait quatre sur la législature précédente. Donc ça c'est un indicateur objectif. On peut critiquer le fait de vouloir mesurer l'ensemble de ces indicateurs, mais ça c'est un indicateur objectif. On voit que sur certains postes, on est en recul. Alors, il y a des postes éminemment politiques. Les Polonais, par exemple, poussent pour avoir ce genre de présidence parlementaire parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup de visibilité et c'est un peu leur stratégie. Et puis des postes qui sont un peu plus cachés, peut-être plus confidentiels, mais hautement stratégiques, comme des postes de coordinateur.
Voilà. Et sachant qu'on a 11 députés dans la Commission des Affaires étrangères qui ne légifèrent pas, c'est juste pour une question de prestige.
C'est une question d'image et de prestige.
Pierre Sellal, en mai 2014, au lendemain, on va dire peut-être en juin-juillet 2014, au lendemain des élections, est-ce que vous jouez un rôle actif, la représentation permanente française, pour aider les eurodéputés à peser et à trouver des postes ici?
Nous prodiguons quelques conseils, en particulier ce que vous avez dit, à savoir quels vont être, pendant la durée de la législature, de manière probable, les commissions les plus actives, avec le travail législatif le plus important, par opposition à d'autres commissions.
Et vous travaillez avec les élus Front National?
Nous travaillons avec tous les élus.
D'accord, sans distinction
et
de parti politique.
Pas, donc, pas. Oui,
c'est comme ça qu'il fallait poser la question.
La difficulté, c'est avant tout celle qui est liée à l'affaiblissement du poids des Français dans chacun des grands groupes. Et c'est lié aussi au fait que la culture de compromis inhérente au fonctionnement du Parlement européen entre les grands groupes n'est pas forcément celle des députés dont nous parlons.
Sylvie Goulard.
Non, mais attendez, on va mettre les pieds dans le plat quand même. Hein. Ah. Il y a le Front National d'un côté, mais il y a un manque de considération pour le Parlement européen dans tous les partis, y compris les partis qui sont dans des grands groupes. Donc je ne donnerai pas de nom, mais si vous lisez par exemple le dernier bouquin de Marcel Gauchet, il qualifie le Parlement européen de placard à balai de la République, et c'est exactement comme ça que la plupart des états-majors des partis le voient. Ce qui est dramatique, encore une fois, je ne le dis pas parce que je suis temporairement parlementaire européen, mais juste pour ceux qui nous écoutent, les législations en matière agricole, donc la réforme de la PAC dans la mandature précédente, toutes les législations bancaires qui s'appliquent à nos banques, 400 000 emplois en France, toute une série de règles importantes sont prises ici. On peut être pour ou on peut être contre, mais c'est la réalité juridique du moment. Et donc, si les partis traditionnels envoient ici des gens recyclés, des personnes qui n'ont aucune influence, qui ne parlent pas les langues étrangères, ça va faire plaisir à Jean Quatremer.
Pour être coordinateur. Les langues.
Pour être coordinateur. Moi, je suis coordinateur depuis 7 ans en commission économique.
Pourquoi c'est stratégique le poste de coordinateur?
Le poste de coordinateur, c'est à la fois le porte-parole du groupe pour ces questions et surtout, c'est dans une réunion de coordinateurs que se fait l'attribution des rapports législatifs, que se prennent à peu près toutes les décisions. C'est pour ça que la présidence d'une commission est un poste important, mais ce sont quand même des décisions collégiales ici.
L'Allemagne a 28 coordinateurs, la France en a 8.
Et très sincèrement, vous ne pouvez être coordinateur que si vous sortez un peu de votre bulle culturelle nationale et si vous êtes à même d'incarner. Moi, j'ai un groupe qui avait un certain mal au départ à imaginer une coordinatrice française sur les questions économiques et monétaires. Ça fait 7 ans que j'y suis et j'en suis heureuse.
D'accord, entre vous et Pierre Moscovici, il y a du monde.
Il ne faut pas seulement incriminer les états-majors politiques, il faut incriminer aussi les citoyens. Quand les citoyens votent pour élire 21 ou 24, ça dépend, je ne sais pas combien, 24 députés Front National, fascistes, je veux dire, c'est eux-mêmes qui se tirent une balle dans le pied.
Tu n'as pas de panachage en France. En Italie ou en Finlande, le citoyen peut barrer des noms.
Je veux dire que le résultat de ça, c'est quand même les citoyens ont fait qu'aujourd'hui, la France au Parlement ne pèse plus l'équivalent de la Grande-Bretagne ou de l'Italie. On pèse du poids de l'Espagne ou de la Pologne.
Alors maintenant, si on parle de la Commission européenne, Paul.
Non, désolé, je voudrais revenir un instant sur le sujet dont on parle, le Parlement européen. Je pense que l'une des clés du sujet, c'est la façon dont les états-majors des partis politiques composent les listes au moment des élections européennes. Il y a une situation qui est totalement scandaleuse, qui ne privilégie pas l'expérience, la compétence, l'engagement européen de ses représentants.
Commission européenne, Charles, si on fait les comptes, alors on va regarder par exemple les membres de cabinet des commissaires européens. Alors on sait qu'il y a un commissaire par État membre.
C'est pas une victoire en soi.
Ça, c'est pas une victoire en soi. Il y a quand même...
Pour les Irlandais, si.
Ça a été une défaite avec le traité. Enfin, parce que avant, il y avait deux commissaires pour les grands États, dont la France. Les Allemands, ils ont 4 chefs de cabinet, dont celui de Jean-Claude Juncker, et 5 chefs de cabinet adjoints. Les Britanniques, ils ont 3 chefs de cabinet, 3 adjoints. Les Espagnols, 2 chefs de cabinet, 3 adjoints. Les Français, un seul chef de cabinet, mais en revanche, 5 adjoints. Ça, c'est...
Oui, là aussi, c'est un élément. Ce qu'on avait compris essentiellement, c'est qu'avoir un Français était important, mais n'était plus la priorité. Et c'est là où on avait une difficulté. C'est qu'évidemment qu'il y a un accompagnement structurel de la France pour pouvoir proposer des candidats, des bons candidats, en interne aussi. Vous avez des fonctionnaires de la Commission qui, en termes de carrière, essayent d'aller vers ces postes, qui après permettent de redescendre dans la hiérarchie avec une avancée significative. Donc il y a un vrai levier d'influence.
Pierre Sellal. On est commissaire européen, on doit choisir son équipe. On se dit, j'ai intérêt quand même à avoir dans mon équipe quelqu'un de telle nationalité parce que c'est important d'être bien avec Berlin ou parce que c'est important d'être bien avec Paris, etc. Et ce qui est très intéressant, et d'avoir la ligne téléphonique, c'est ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un chef de cabinet français et qui l'a choisi ? Pierre Moscovici. Le chef de cabinet français, c'est celui du commissaire français.
Oui. La grande majorité des commissaires ont pour chef de cabinet un fonctionnaire de leur nationalité.
Ce qui n'était pas possible à l'époque de Prodi. Et c'est bien dommage.
Alors, la présence dans les cabinets est importante. Et l'objectif que nous étions fixés à la représentation permanente, c'est de faire en sorte qu'il y ait un Français dans le plus grand nombre possible de cabinets. Et c'est le cas, je crois, dans 21 ou 22 cabinets sur 28. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas totalement significatif et ce ne peut être pas l'essentiel. S'agissant de l'institution commission, le point qui est le plus important pour moi, c'est que les Français soient la nationalité avec le plus grand nombre de ce qui correspond aux sous-directeurs ou aux chefs du bureau d'administration française. On appelle ça les chefs d'unité à la Commission. 141 chefs d'unité français. Et deuxièmement, que les administrations françaises continuent à faire l'effort d'envoyer des experts nationaux. Que c'est ça qui organise au quotidien la relation entre l'administration française
auquel,
et la Commission.
Pierre, j'ai été expert national détaché. On est nul. Si vous me permettez, Pierre, on est nul. Un expert national détaché n'a pas accès aux informations auxquelles ont accès ses collègues d'autres pays.
Et alors là-dessus, ça vous a conduit à une responsabilité importante au Parlement européen. C'était un excellent investissement.
Oui, mais très sincèrement, dans la circulation d'informations, nous avons beaucoup à apprendre. Mais moi, je voudrais juste faire une remarque. Je pense qu'il faut arrêter ces décomptes. Il y a une question clé qui est la question. Bien sûr, il faut qu'il y ait des équilibres d'ensemble et que tout le monde doit y être. Mais l'essentiel, c'est quand même d'avoir des personnes qui sont compétentes. Regardez le débat qu'il y a en Allemagne en ce moment contre Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne. On lui reproche essentiellement son passeport. Sur la compétence, on ne peut rien dire. Sur la politique, il peut y avoir un débat, et là, je crois que le débat est légitime. Sur les personnes et l'origine des personnes, si on continue le petit jeu...
Si on regarde le bilan, par exemple, du commissaire européen allemand...
Mais il n'est pas là pour représenter l'Allemagne.
C'est pour ça que vous parlez de la qualité des personnes.
Mais je vous dis, moi, sincèrement, si on continue comme ça, c'est l'Europe qu'on enterre.
C'est pour dire qu'il n'était pas terrible,
bilan. C'est l'Europe qu'on enterre si on continue comme ça.
On parle maintenant du Conseil. Donc, on peut parler du Conseil européen au niveau des chefs d'État et aussi du Conseil des ministres. François Hollande, Jean Quatremer, est-ce que vous avez été particulièrement ému à un moment donné dans une conférence de presse de François Hollande lors d'un sommet européen? Parce qu'en fait, c'est intéressant. Il n'y a que le président. C'est rare d'avoir Pierre Sellal, le représentant permanent français ici sur ce plateau, parce qu'en gros, on a l'impression que le seul qui a le droit de parler d'Europe en France, c'est François Hollande.
Oui.
Regardons, par exemple, Harlem Désir, le ministre français des Affaires européennes. Vous le connaissez? Oui, voilà, je précise. Et je précise son rôle. Moi, je ne le connais pas. Vous le connaissez ou pas? Vous le voyez souvent?
Non, mais le seul qui sait à peu près ce qui se passe au Conseil européen, c'est Pierre Sellal, justement. Il aurait des tas de choses, je l'imagine, à nous raconter. Moi, j'aimerais bien l'entendre sur les derniers conseils européens, qu'il nous raconte ce qu'a dit François Hollande, ce qu'il n'a pas dit, à quel moment il a laissé la parole à la chancelière, etc. J'aimerais bien savoir ce qui s'y passe. Parce que moi, j'ai des anecdotes internes qui m'ont été racontées par des méchants de langue, parfois françaises, sur l'importance qu'a François Hollande au sein de ces conseils européens, sur le jeu qu'il joue, sur la dynamique qu'il impose. Ben, il faut dire que c'est quand même pas terrible. La question, c'est en quoi François Hollande a-t-il orienté les débats du Conseil européen pendant 4 ans?
Pierre Sellal.
Je suis désolé.
Pierre Sellal.
Je dis pas surtout.
Pierre Sellal. En quoi François Hollande a-t-il orienté le Conseil européen?
Je rassure que en sollicitant la patience de Jean Quatremer, un fonctionnaire écrit ses mémoires. Donc cela viendra bien un jour. Deuxièmement.
Ça, je me réjouis parce que.
Sur l'influence de la France au Conseil, il y a une réalité, c'est le Conseil européen, qui est l'instance centrale du dispositif. Et au sein de laquelle il se trouve que parce que la France est représentée par le chef de l'État, la France y occupe une place particulière, il y a un poids particulier. Et c'est ce que j'ai ressenti à toutes époques, quel que soit le titulaire de la fonction. C'est l'avantage de la France. Ça me conduit parfois à des discussions difficiles avec Sylvie Goulard qui ne souhaite pas que le Conseil européen exerce
un
rôle de direction.
Il ne rend de compte
mais du
personne.
Point de vue de notre sujet, de l'influence de la France, des intérêts de la France,
c'est
évidemment l'instance la plus favorable à notre influence.
En tout cas, ce qui est intéressant quand on prend les différents éléments de la discussion, et que je reprends ce que disaient Sylvie Goulard ou Jean, si on en parlait plus dans les médias, de l'Europe. Peut-être que les responsables politiques, notamment du Parlement européen, ce serait plus un placard à balai. Ils viendraient ici à Bruxelles, ils iraient à Strasbourg. La France serait donc plus influente. Et du coup, les Français, se sentant en position de leadership, verraient moins Bruxelles comme un bureau extérieur. Et donc, du coup, préféreraient l'Union européenne. Donc, le populisme serait moins fort. Donc, en gros, c'est de nos fautes. Notre faute.
On va lancer un mouvement qui s'appelle « Eh oh l'Europe !»
Eh oh l'Europe, c'est pas mal. Et 500 millions d'Européens en prime time.
Jean,
500 millions d'Européens en prime time sur BFM Business, BFM TV, TF1, France 2.
On y va. Et où l'Europe? Sincèrement, par exemple, François Hollande pourrait plus souvent défendre le Parlement européen qui a son siège en France. Mais moi, c'est un des éléments, c'est un des chaînons manquants de l'influence française. Lorsque sur le Brexit, le chef de l'État a participé à une décision qui viole tous les traités, qui contourne les procédures dans lesquelles le Parlement européen aurait pu avoir son mot à dire pour une révision des traités, on affaiblit l'institution dont on dit qu'on veut la garder sur le territoire français. Donc on n'encourage pas les partis à le prendre au sérieux.
À qui doit-on que l'accord avec les Britanniques respecte ses principes fondamentaux? À l'action de la France.
Voilà, merci beaucoup Pierre Sellal, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne. Merci Sylvie Goulard, eurodéputée ALDE, Alliance des libéraux et démocrates européens. Paul Gégère du groupe des Bellefeuilles, Jean Quatremer, Charles de Marcy, vous restez avec nous pour les coulisses de l'Europe. On va poursuivre la discussion sur l'influence de la France dans le cadre des coulisses et dans le cadre de la revue de presse de Courrier International. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euronet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. C'est parti pour les coulisses de l'Europe et la revue de presse européenne avec Courrier International et respectivement pour les coulisses. Politico d'ailleurs, bonjour Maya Delabaume.
Bonjour Yann.
Comment allez-vous?
Très bien.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
De Donald Tusk qui est une star de la télévision.
C'est ça?
Tusk. Ah bah oui, il faut expliquer.
Ah oui, pardon, Donald Tusk, le président du Conseil européen, le polonais, l'ancien Premier ministre polonais, c'est une star de la télévision ou c'est en Pologne?
Oui, on va le dire comme ça. Ah non, l'Union européenne,
en
pas
Europe.
La Pologne.
D'accord, donc spécial coulisses de l'Europe, ma trombine à la télé, ceux qui sont des stars ici à Bruxelles, mais qui souvent ne pèsent pas grand-chose à travers les 28. On va regarder dans ce hit parade qui passe le plus à la télé. Maintenant, c'est le moment promotion pour ceux qui nous regardent à la télévision. Je fais un peu une hardisson avec ce rapport Schuman sur l'Europe 2016, ce magnifique ouvrage auquel a contribué, en tout cas vous avez coordonné ces travaux, Charles de Marcy.
Thierry Chopin qui coordonne l'ensemble des publications et qui notamment ici a réuni les meilleurs experts sur les questions européennes, et donc on pourra appuyer les 500 millions d'Européens prochains sur le rapport Schuman.
Voilà, les meilleurs experts dont vous faites partie, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, et je donne ce livre à Jean Quatremer qui lui fait semblant de vraiment travailler ses dossiers. Paul Gégère est toujours avec nous du groupe des Bellefeuilles, et puis Jean Quatremer du blog Coulisses de Bruxelles et de Libération. On sera rejoint dans un instant par Eric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International. C'est parti pour les coulisses de l'Europe de Politico. Pour réagir, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrés dans les coulisses de l'Europe.
Alors ça, Donald Tusk, le président du Conseil européen.
Tusk ou Tusk?
Tusk, Tusk, T-U-S-K.
Tusk.
Tusk.
Donald.
C'est une star à la télévision.
Pas Mickey,
expliquez-nous ça, Maya.
C'est une star, et oui, parce qu'en fait, Politico a sorti une étude faite par Média Tenor International, qui est faite un institut de sondage, et ils ont fait un hit parade de tous les leaders de l'UE qui ont été le plus, en fait, dans l'actualité, dans les journaux d'actualité. Et on a découvert que Donald Tusk était la personne qu'on a vue le plus à la télévision.
Vous avez trafiqué les chiffres à Politico.
Alors, c'est à doubler les chercheurs. Ils ont passé en revue des milliers de reportages télé sur la chaîne autrichienne ORF, sur TF1, dans le journal de TF1 en France, en Allemagne, sur la chaîne du Hard, ARD, Italie, la RAI, en Espagne, TVE, et au Royaume-Uni, BBC. Ça, évidemment, ça fait rire, Jean Quatremer. Donc, en gros, Donald Tusk, il passe dans le journal de TF1. Moi, j'ai jamais vu.
Oui, alors il faut recontextualiser un peu.
La France est un pays à part.
Voilà, et puis les leaders nationaux sont bien plus présents à la télévision, dans toutes les télévisions européennes, que les leaders de l'Union européenne. Mais Tusk était là, il a fait beaucoup de voyages, il a été très médiatisé sur la crise de la migration, on l'a vu beaucoup, sur le Brexit, on l'a vu beaucoup, et il est suivi par Juncker et Mogherini, qui sont aussi les deux autres leaders qu'on voit beaucoup à la télévision.
Alors le premier c'est Donald Tusk, le deuxième Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, le troisième Mario Draghi de la BCE, la quatrième, vous venez de la mentionner, Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, le cinquième Martin Schulz, président du Parlement européen.
Qui parle beaucoup à la télévision.
Et qui parle beaucoup, qui apparaît notamment souvent dans le petit journal de Canal+, et qui contribue vraiment, parce qu'il a un vrai franc-parler, il n'a pas de langue de bois, il est vraiment capable de bien faire passer le message européen.
En français.
Pierre Moscovici en 6e, Johannes Hahn en 7e, Jeroen Dijsselbloem, le patron de l'Eurogroupe, en 8e, c'est un commissaire européen, et Frans Timmermans, aussi vice-président de la Commission européenne, le néerlandais, en 9e position, et Phil Hogan en 10e position. Lui, il est passé un petit peu en France, pour le coup, parce que c'est le commissaire en charge de l'agriculture.
Mais la grande difficulté, je crois que la grande difficulté aussi pour une partie de ces leaders d'être connus, c'est qu'ils ne ne peuvent pas s'exprimer dans beaucoup de langues.
Oui, mais Donald Tusk, par exemple, il est arrivé ici en ne parlant que polonais, et c'est lui qui passe le plus à la télé.
C'est vrai.
Il a
travaillé un peu son anglais. Mais par exemple, Phil Hogan ne parle qu'anglais, sa propre langue maternelle, donc ça pose des vrais problèmes, un vrai défi pour les chaînes de télévision, pour les radios, parce qu'on doit parler la langue. Demandez à la BBC l'autorisation de vous exprimer dans une autre langue que l'anglais, vous n'y arriverez jamais.
Paul Gégère, l'Europe à la télévision.
Oui, je pense que c'est l'enjeu, et heureusement qu'on a ces personnalités qui arrivent à passer. Je crois que c'est un atout pour l'Europe d'aujourd'hui. On a besoin de ce type de porte-parole médiatique. On a vraiment besoin. Il faut les encourager.
C'est le genre d'études, ça, honnêtement, Charles de Marseille, c'est le genre d'études avec lesquelles on se fait plaisir à Bruxelles. J'imagine Donald Tusk recevant ça dans son bureau du Juste Lips en disant « Oh, teraz dziękuję, je suis Donald Tusk, je suis le plus visible des leaders européens sur les télévisions des grands marchés européens. » C'est n'importe quoi. Aller faire le moindre micro-trottoir, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, personne ne connaît Donald Tusk.
Eh ben, je pense que la différence entre porte-parole et qui va parler, et je ne suis pas convaincu que dans toutes les interventions médias, on l'entende parler, ou alors être des visages qui incarnent justement cette Union européenne, qui surtout sur 2015 a enchaîné les crises, les conseils, l'ensemble des discussions au niveau international. C'est peut-être pour ça qu'on voit beaucoup Mogherini, de voir un Parlement qui essaie de prendre du poids, de voir Moscovici ou Dijsselbloem sur les questions de l'Eurogroupe. Et je pense que c'est surtout ça qu'on voit. On voit ces visages, mais on ne les entend pas beaucoup parler.
Le point positif, c'est que quand on voit Donald Tusk à la télévision, il y a des débats dans les différents pays de l'Union sur l'Europe. On n'est pas d'accord avec la façon dont Donald Tusk a négocié les accords avec les Anglais. Ou on a une opinion positive, mais au moins on en débat et on réfléchit. Et donc je pense que c'est là l'enjeu, c'est d'être plus présent, que le débat européen soit incarné et que les citoyens puissent se faire une opinion positive ou négative, mais réfléchissent.
Et puis c'est son rôle de casser cette image où on a les 28 chefs d'État et de gouvernement qui sont alignés, là, ce qui ressemble à rien, bien et sûr. D'avoir quelqu'un qui justement identifie le Conseil européen, même si personne ne comprend ce qu'il y a derrière, mais au moins dire voilà, ça c'est le bonhomme de l'Europe.
Enfin, moi, j'aimerais que vous m'emmeniez avec vous la prochaine fois, vous allez interroger Tusk.
Tusk.
Donald. Hein, je serai avec vous.
Moi j'ai mes entrées donc.
Voilà, il veut revoir Donald. L'année dernière, on avait fait une spéciale à Disneyland Paris. Jean Quatremer maintenant veut voir pour les fidèles de l'émission. Dziękuję bardzo. Teraz la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Dzień dobry, Eric Scholski.
Bonjour Yann Anthony.
Eric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International pour sa revue de presse très attendue. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah, cette émission, très bien la revue de presse ». Mais je dis « Bah, le reste aussi, non, c'est bien ». Non, la revue de presse, c'est très bien. Bon, bah voilà, ça c'est pour Jean Quatremer, Charles de Marcy.
On est vexé.
Mais c'est vrai, en plus, je l'ai entendu. Il y a quelqu'un qui
l'a dit. On s'en va?
On va parler tout de suite avec vous de Londres, The Economist. Et on revient sur l'influence française, finalement, dans l'Union européenne. English becomes Esperanto.
C'est un sujet qui devrait intéresser Jean Quatremer. Parce que The Economist s'est posé la question, que se passerait-il si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne? Eh bien, pour la langue de l'Union européenne. Alors, bon, ils font un petit retour sur le passé et ils constatent quand même que c'est déjà une anomalie que les institutions européennes soient dominées par la langue de son membre qui est aujourd'hui le plus récalcitrant, le Royaume-Uni. Alors, au fond, ils s'interrogent d'ailleurs sur le place du français en expliquant bien que petit à petit, là je cite le journal, petit à petit, l'anglais a pris la place du français en tant que langue la plus répandue pour communiquer entre eurocrates ou entre parlementaires qui ne partagent pas la même langue natale. Alors, s'il y avait un Brexit, qu'est-ce qui se passerait bien? L'anglais, ça, on aurait quelque chose d'original, souligne l'économiste, parce que finalement, on aurait une union de 450 millions de personnes dominée par une langue parlée officiellement juste en Irlande, 4,5 millions d'habitants, et à Malte, 450 000 habitants. C'est-à-dire que c'est ça, cette originalité. Et alors peut-être que d'autres langues, et notamment le français, pourraient être poussées en se disant, bah, après tout, c'est le moment de reprendre le dessus. Mais la vie économiste s'explique, pas question. Les Français, explique-t-il, seraient évidemment très excités à cette idée de restaurer la vieille primauté de la langue française. Mais ça n'arrivera pas. Le français restera la deuxième langue de l'Union européenne. Et cette place est toutefois assurée. C'est en tout cas l'avis de vie économiste.
Oui, en même temps, c'est dans vie économiste, hein, quand même, Eric. C'est comme si on demandait à l'équipe... entre la France et l'Angleterre qui allait gagner le match. Charles de Marcy.
La France.
La France, d'accord. Bon, l'avenir du français.
L'avenir du français, oui, c'est une vraie question. Il y a aussi une question générationnelle ici, avec l'élargissement où les nouveaux arrivants parlaient plus facilement allemand, l'anglais, bien entendu. Et donc ça prendra du temps, même si les Britanniques s'en vont, même si, ce qui paraît encore très improbable, on modifie cette langue de travail, ça prendra encore une génération.
Donc, Paul Giffert.
Pas gagné.
We don't care.
Là, moi,
je pense que c'est un faux sujet, en fait. Je pense que l'anglais est devenu la langue de communication internationale. Les jeunes parlent anglais. Les jeunes se projettent dans un monde global dans lequel l'anglais est la langue. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le français. Ça veut dire qu'il faut continuer à développer l'influence française. Il faut qu'on en parle. Mais sur le fonctionnement des institutions, l'anglais, c'est la langue de travail.
Les jeunes parlent anglais. Jean Quatremer.
Non, ça, je pense que là,
il ne parle pas anglais.
Et qui est jeune. Ça pose un vrai problème de gouvernance de l'Union européenne. Je ne pense pas qu'on puisse gouverner un ensemble de 500 millions d'Européens qui ne parlent pas anglais. La majorité des gens sur le continent européen ne parlent pas anglais, dans une langue qui n'est comprise que par une partie de la population minoritaire, et bientôt ce sera plus parlé que par 4 ou 5 millions de personnes comme langue maternelle. C'est juste pas possible. Quand on a gouverné des ensembles avec une langue que l'ensemble des peuples ne comprenaient pas, c'est pendant la colonisation ou lorsqu'il y a eu des empires. Par exemple, effectivement, le 4e Reich, là on a eu droit, le 3e Reich, pardon, on a eu droit à une gouvernance en allemand. Bon, et ben l'Europe, elle n'a pas été faite pour ça. Je crois que l'Europe, elle a toujours été faite, était multilingue, elle a été pensée comme étant multilingue. Comme le dit très bien Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction.
Non, mais vous parliez du 4e Reich, pourquoi pas, victoire de l'extrême droite, vue de Vienne, c'en est fini, de la 2e République, Éric Scholl.
Oui, la 2e République, c'est le régime en cours aujourd'hui en Autriche, et donc le quotidien de Vienne, Die Presse, eh bien, a fait ce constat au lendemain des élections, le jour où l'Autriche est devenue bleue, avec cette grosse inquiétude, à la fois évidemment par ce score très élevé du candidat FPE, Norbert Hofer, qui a fait plus de 35%, mais au fond aussi l'élimination des partis traditionnels. Alors voilà ce que dit Die Presse à ce sujet. Si la vieille politique ne comprend pas que les partisans des populistes de droite d'un côté, et les jeunes électeurs qui résonnent à la Scandinave de l'autre exigent et imposeront un changement profond dans la politique, le style et le pays, on vit les derniers moments d'une ère. Voilà, c'est la fin d'une certaine Autriche aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'a montré ce premier tour des présidentielles.
Oh là là, Charles de Marcy.
Les deux grands partis font 11% chacun. Il faut voir qu'il y a aussi une question de la faiblesse des adversaires et des différents candidats. Vous avez le leader de l'extrême droite qui a 45 ans. La moyenne de l'âge des 5 autres candidats, c'était 72 ans. Donc c'est pas anodin. Vous avez des problèmes évidemment sur la crise des réfugiés. Alors même si aujourd'hui ça va être contourné, vous avez un ensemble de critères et de facteurs qui ont rendu un peu fade en fait le débat. Et puis les deux grands partis présentaient des anciens syndicalistes et présidents de syndicats nationaux. Donc il y a encore une vision entre politique, économique et ces grands débats de société qui étaient complètement mélangés. Et là, vous avez quelqu'un qui fait campagne en moins d'un mois, qui était inconnu au bataillon, parce que c'est pas chef de parti qui est arrivé. Vous avez les Verts dans un second rang, qui est un peu plus consensuel, mais qui n'a pas non plus une figure majeure. Et donc, vous avez l'ensemble des critères qui sont faits pour avoir cette explosion, d'avoir ces 30%. La question, c'est est-ce qu'il sera encore là ou
est-ce qu'on le président, on est d'accord, en Autriche, il inaugure les chrysanthèmes. Hein, mais bon, quand même,
c'est quand même juste un mot, je dirais que c'est quand même symbolique que le pays qui a donné naissance à Adolf Hitler, en 2016, vote pour un candidat d'extrême droite.
Et où Jörg Haider a fait des scores assez...
Est-ce que c'est pas un message vers tous les partis traditionnels pour le rajeunissement, premièrement, et d'autre part pour l'engagement européen des responsables politiques, parce que en fait c'est un échec de la classe politique autrichienne d'avoir véritablement su parler du projet européen. Et donc
comme
là il y a
France.
Une message comme en France absolument, et nous avons le même risque en France. Donc il faut rajeunir. Et parler d'avenir, et parler d'Europe.
Mais il y en a un, Emmanuel Macron.
C'est un vrai sujet.
Oui,
c'est un vrai sujet. Et je pense que pour la primaire, je pense que ça sera un critère, pour moi, extrêmement difficile pour Alain Juppé, parce que il n'est pas de la bonne génération. Même s'il a par ailleurs d'immenses qualités.
D'ailleurs, ça va être intéressant, on voulait faire une émission, on fera peut-être ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, ces Français, notamment ces jeunes Français qui choisissent l'Europe, qui choisissent l'engagement européen. On va contacter des gens qui travaillent au Parlement, à la Commission, au Conseil, et puis on va les faire venir ici, on va leur demander à ces jeunes qui ont choisi l'Europe de venir témoigner ici dans 500 millions d'Européens.
Si c'est une émission placée sous le signe de la jeunesse.
Alors, vue de Madrid, nuit debout, le mouvement français multiplie, Eric, ses actions pour amplifier la résonance internationale de la protestation.
Oui, le journal Publico a consacré un très long article, même un reportage sur Nuit Debout, mais au fond en essayant de montrer comment il y a une sorte d'imbrication effectivement avec des militants espagnols, des militants français. D'ailleurs, ils vont organiser, ils ont lancé un appel international pour le 15 mai. Et vous savez, le 15 mai, c'était, et ça sera l'anniversaire, c'était il y a 5 ans, c'était la première mobilisation des indignés espagnols. Alors justement, eh bien, il y a des indignés, des anciens indignés qui se sont rendus à Paris et qui apportent leur aide, leurs compétences pour aller faire du réseau international, pour être sur Facebook, pour monter des collectifs internationaux. Et donc, le journal a suivi 3 de ces anciens indignés, des habitués au passage, hein, parce que depuis les indignés, ils ont fait déjà une 20aine de mouvements à l'international en apportant à chaque fois leur savoir-faire en termes de réseaux sociaux.
Alors, Paul Gégère.
Nuit debout, on constate que les activistes sont bien organisés. Rien de nouveau sous le soleil, c'est tout. Pour moi, c'est pas sérieux.
Voilà. Vu d'Allemagne, Obama en offensive de charme pour le TTIP, le TAFTA, Eric.
Oui, Die Welt a fait une formidable. On voit le couple Merkel-Obama rassemblés dans un petit cœur tout rouge. Et avec cette idée, Obama a fait une déclaration d'amour politique à la chancelière. Alors, Die Welt, évidemment, fait le décryptage nécessaire, parce que si on écoute Obama, c'était la relation la plus importante, l'amitié la plus importante de mon mandat, dit-il à propos d'Angela Merkel. Derrière, il y a de vrais intérêts, souligne le journal allemand. Il cherche à s'allier à sa meilleure alliée en Europe pour promouvoir le TTIP. Et puis, il souligne aussi que l'Allemagne, le journal souligne que l'Allemagne est devenue un havre de stabilité dans une Europe tourmentée par de nombreuses crises. C'est en tout cas ce qu'écrit Die Welt.
Voilà, Barack Obama qui est venu dire aux Européens qu'il les aimait, aux Britanniques qu'il ne fallait pas quitter l'Union Européenne. Barack Obama, finalement, Charles de Marcy, qui ne pensait qu'à l'Asie, au Pacifique ou même à l'Afrique et qui s'en moquait un petit peu de l'Europe. Et là, maintenant, il se rend compte que...
Ah bah c'est sympa, 5 mois avant la fin de son mandat, il vient et puis il se rappelle aux bons souvenirs des Européens avec de l'ingérence sur les critères, évidemment, du TTIP, alors que ce n'était pas une priorité de son mandat, très clairement, et que là, ça sent un peu le sapin. Et puis alors sur le Royaume-Uni, plus fort évidemment au sein de l'Union Européenne qu'en dehors, surtout pour les États-Unis.
Donald Trump qui l'emporte, je pense qu'il sera bien reçu s'il vient à Bruxelles avec les déclarations à l'emporte-pièce qu'il a.
Il y a une vraie inquiétude américaine aujourd'hui qu'il ne faut pas sous-estimer, et c'est ça aussi le signal de la visite d'Obama sur ce qu'est en train de devenir le continent européen. Je crois que les Américains sont très inquiets de l'effondrement du continent européen, de ce qui se passe, la montée des populismes, et ils ont peur de se retrouver dans la même situation qu'en 1940.
Et en gros, son discours, c'était de dire peut-être que vous, les Européens, chers amis, vous avez besoin que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vous le dise, mais c'est bien ce que vous faites, ce que vous avez fait, ne revenez pas en arrière. Bon, c'est un peu basique pour les enfants de 5 ans, la retranscription du message de Barack Obama, mais en gros, c'est ça l'idée. Merci beaucoup, Maya de la Baume de Politico. Merci Jean Quatremer. Des coulisses de Bruxelles sur Internet et puis sur papier de Libération. Merci Paul Gégère du groupe des Belles Feuilles. C'était qu'une première, hein, Paul Gégère, vous allez revenir.
Avec plaisir.
Ah, ben, ce sera un plaisir partagé. Merci Charles de Marcy. Et encore bravo pour votre rapport Schuman sur l'Europe, hein, présenté un peu comme dans le juste prix avec une charmante hôtesse, Jean Quatremer, qui nous présente.
19,90 euros.
Merci Alexandre Rouget qui a préparé cette émission. Merci aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en son et en image. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, bonne fin de week-end à l'écoute de BFM Business, évidemment.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.